Bonjour, nous sommes le vendredi 24 août 2018 et on continue dans la série que j'ai commencée au sujet des sept lettres et des sept sceaux de l'Apocalypse ce soir. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs ainsi que moi-même pour que les choses soient vraiment claires dans les esprits et que chacun puisse se rendre compte dans quel temps nous vivons. Et que ce livre de la révélation se révèle réellement dans les cœurs de chacun et chacune. Amen. Bon, alors il faut savoir que Jésus a dicté sept lettres à Jean sur l'île de Patmos, et ces sept lettres étaient destinées à sept anges, écrits à l'ange de Smyrne, écrits à l'ange d'Éphèse, etc. Alors comment peut-on envoyer des lettres à des anges? Eh bien, c'est simple. Nos traducteurs, on dirait qu'ils font tout pour nous mettre dans la confusion. Le mot ange signifie envoyé. C'est le même mot que apôtre, le mot ange. Donc, quand Jésus dit à Jean d'écrire une lettre à l'ange d'Éphèse, en fait, il lui dit d'envoyer une lettre à celui qu'il a envoyé à Éphèse comme responsable de l'Église. Vous comprenez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais cette lettre, comme tout le reste de l'Apocalypse d'ailleurs, a une portée prophétique. Jésus a dicté sept lettres à sept anges, sept envoyés, sept responsables d'églises locales, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Mais ces sept lettres ont une portée prophétique. Et on va voir ça tout au long de cet exposé. Chaque lettre s'adresse à l'Église d'une certaine période. Par exemple, la lettre d'Éphèse, la première, elle concerne deux choses. Premièrement, elle concerne les chrétiens qui vivaient à Éphèse à l'époque de Jean. Ils ont reçu cette lettre, ils l'ont lue, ils l'ont analysée, ils ont fait ce qu'il fallait faire, corriger ce qu'il fallait corriger, vous comprenez? Et les chrétiens cette lettre, elle concerne aussi les chrétiens qui vivaient entre l'an 50 et environ 170 après Jésus-Christ environ. Comment je peux le savoir? Eh bien, on le sait en lisant l'histoire de l'Église, ce que Jean ne pouvait pas faire. Aujourd'hui, tous ces événements se sont produits. Et maintenant, nous pouvons voir, en lisant l'histoire de l'Église, que ce que Jésus a dicté à Jean, c'était une prophétie au sujet de ce qui allait arriver au cours de l'histoire de l'Église. Et de nos jours, on a toute l'histoire de l'Église qui est écrite. Vous pouvez trouver ça sur Internet, vous pouvez trouver ça dans les librairies chrétiennes, vous pouvez trouver ça n'importe où, hein. Cherchez, vous trouverez. Et l'histoire de l'Église, elle est écrite. Alors, quand on compare les prophéties, c'est-à-dire ces sept lettres que Jésus a dictées à Jean avec l'histoire, eh bien on voit que ça colle, que c'est parfaitement exact. L'Église a vraiment passé par les sept phases annoncées prophétiquement par Jésus dans ces sept lettres. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, je continue, sinon ben vous arrêtez d'écouter, hein. Alors on va étudier, et pour quelle raison on va étudier ça? Eh bien on va étudier ça pour savoir où nous en sommes nous-mêmes, personnellement, là, pendant notre époque, on est où là, dans cette histoire prophétique? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Alors on commence. En réalité, le livre de l'Apocalypse dévoile ce que Jésus-Christ est, ce qu'il allait faire et accomplir. Le mot Apocalypse signifie révélation. Il dévoile, il révèle. Et il révèle ce qu'il allait faire et accomplir au cours justement de ces sept âges de l'Église qui étaient encore à venir à l'époque, et aussi tout ce qui allait suivre jusqu'à la fin. Ce livre est une révélation, il est tout à fait particulier. Car les autres disciples de Jésus-Christ, ceux du premier siècle et des autres siècles, ne connaissaient pas la vérité que nous pouvons y trouver. Ce qui est dans ce livre n'avait pas été révélé avant. C'est pareil, par exemple, pour le livre de Daniel. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut comprendre ce que signifie Daniel 12, Verset 4 à 8. Regardons un peu ce qui est écrit là. C'est Dieu qui parle à Daniel, le prophète, et qui lui dit « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées ou scellées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. » Vous voyez ? Et au verset, on saute un peu plus loin, au verset 8, j'ai entendu, mais sans comprendre, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Il a répondu, vas-y Daniel, car ces paroles seront tenues cachées, marquées du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront purifiés, épurés et affinés, les méchants feront le mal, et aucun d'eux ne comprendra, tandis que ceux qui seront perspicaces comprendront. Dans une autre version, ceux qui seront intelligents comprendront. Intelligents spirituellement. Vous avez des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi dans d'autres domaines, mais dans le domaine spirituel, c'est de cela dont il est question. Il faut être intelligent dans le domaine spirituel. Ceux qui seront intelligents dans le domaine spirituel comprendront. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, le livre de Daniel était scellé, incompréhensible. Mais ce n'est qu'à la fin, vous avez vu, on vient de le lire, que les choses s'éclaireront. Alors nous sommes arrivés justement à la fin, c'est-à-dire à la plénitude des temps. Et Dieu révèle les choses qui sont scellées, qui ont été cachées sous des sceaux. Vous savez que autrefois les livres, c'était pas comme nos livres, c'était des rouleaux. Et puis, pour fermer le rouleau, on mettait un cachet de cire, et voilà. Donc, si on brisait le sceau, alors on pouvait lire ce qu'il y avait dans le livre. Sinon, on pouvait pas. Et c'était caché, et maintenant, Dieu est en train de rétablir la connaissance confuse et malade de son Église. On trouve ça dans Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc d'attitude, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors les temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. C'est-à-dire que là, l'apôtre est en train de parler à des juifs en disant, voilà, vous l'avez crucifié, maintenant Jésus a été accueilli au ciel, mais il va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir? Il va revenir au moment du rétablissement, de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche des prophètes. Donc Dieu est en train de rétablir les choses, de les mettre en lumière, de les révéler. Donc, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, dans cette révélation, Jésus nous révèle plusieurs choses, et entre autres, il nous révèle la fin du diable. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan. Il y en a qui le suivent sans savoir qu'ils le suivent, parce que vous savez que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors, ils le suivent sans savoir qu'ils le suivent. Donc, il révèle ce livre, la fin des méchants qui suivent Satan, la fin des fils du diable, la fin du serpent, etc. Et c'est pour ça que le diable déteste le livre de l'Apocalypse. En vérité, Satan déteste particulièrement deux livres, le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Il déteste le livre de la Genèse parce que le livre de la Genèse nous raconte son origine et le livre de l'Apocalypse nous révèle sa fin. Et quand l'Église refuse de croire Satan, elle se met à croire la Genèse et l'Apocalypse, c'est-à-dire quand le peuple de Dieu se met à croire la révélation que Jésus donne, alors Jésus dit les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle, contre cette Église-là qui croit ce qui est écrit particulièrement dans la Genèse et dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr aussi dans les autres livres, mais ces deux-là sont très importants. Ce qui empêche l'Église de croire la Genèse et l'Apocalypse, ce sont deux choses. C'est le péché, l'incrédulité, c'est l'indifférence, mais en tout cas ce n'est pas la science. La science dit quelque chose, 10 ans après elle dit autre chose, un chrétien, il croit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos péchés ont été effacés, Et nous sommes ici parce que nous ne sommes pas indifférents. Nous ne sommes pas indifférents à ce que l'Esprit Saint a à dire à l'Église de Jésus-Christ. Alors Satan a peur, Satan n'aime pas ça. Il sait que les personnes qui vont recevoir ce dévoilement, là, il sait que les personnes qui vont recevoir cette révélation, eh bien ces gens-là vont être invincibles et que ces œuvres sont sur le point d'être dévoilées. Alors Satan sait que Jésus-Christ ne change pas, qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Satan, vous savez que Satan en sait plus là-dessus que 90% des théologiens. Mais bien sûr, Satan sait que Jésus-Christ ne change pas dans sa nature et qu'il dévie jamais de ses voies. Donc Satan sait que l'Église originelle telle que Jésus l'a voulu, celle de la première Pentecôte à Jérusalem après l'Ascension, est la véritable Église que Jésus déclare être la sienne. Je vous ai déjà enseigné ces choses régulièrement. Il sait donc que toutes les autres églises sont fausses, évidemment, plus ou moins fausses, et que Dieu les tolère, ça ne veut pas dire que Dieu les aime pas, mais voilà, c'est pas comme Jésus voulait au départ. Maintenant, Jésus est dans son église, et le livre de l'Apocalypse nous révèle que l'esprit de l'Antichrist allait dès le départ, dès le commencement de l'église, que l'esprit de l'Antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste, sans puissance, malade, confuse, et finalement vomissable. C'est ce que nous disons dans les Écritures. Le livre de l'Apocalypse, donc de la Révélation, révèle que Satan allait jeter un discrédit sur la parole de Dieu pour essayer de détruire le peuple de Dieu. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Satan sait que la véritable Église gardera la parole de Dieu et le nom de Jésus et que ce sera une armée invincible. Il sait qu'il est vaincu par la véritable Église, autant qu'il a été vaincu par Jésus au désert. Et voilà pourquoi Satan déteste la révélation. Il déteste le livre de la révélation. Il déteste que les choses soient révélées à l'Église. Mais nous, nous aimons la révélation. Et la véritable révélation habite nos vies. Et c'est nous qui prévaudrons contre les portes du séjour des morts. C'est pas le contraire. Alors voilà. Vous savez qu'à la fin, le séjour des morts est ouvert et qu'un quart de la terre va périr et tout, mais les enfants de Dieu ne seront pas touchés. Alors voilà, ce livre est la révélation de Jésus-Christ lui-même dans son Église au cours des sept âges de l'Église. Quand je dis que les véritables chrétiens ne seront pas touchés, ils pourront peut-être être tués physiquement, mais jamais dans leur esprit. Nous ne pouvons pas recevoir cette révélation si le Saint-Esprit ne nous la donne pas. C'est pourquoi il faut prier, il faut demander à Dieu, il faut supplier, il faut prier avec ferveur. Ce livre de la révélation ne peut être révélé qu'à une seule catégorie spéciale de personnes. Il faut que ceux qui l'écoutent aient la faculté du discernement prophétique. Pour que cette génération, pour que cette révélation soit donnée par le Saint-Esprit, ça nécessite un enseignement surnaturel. Il faut que cela soit baigné dans la prière, dans l'humilité, dans la gratitude. On ne va pas seulement étudier en comparant des versets les uns avec les autres, et en faisant un échafaudage, bien que c'est pas mal de faire ça, pour beaucoup de choses c'est bien, mais il nous faut décider absolument de nous abandonner pour écouter Dieu. Et voilà pourquoi il est écrit que quiconque lit ou entend ce qui est dans ce livre et garde ces choses est béni. Vous lisez ça dans Apocalypse 1:3. C'est une bénédiction spéciale pour ceux qui entendent, qui comprennent, qui gardent ce qui est écrit, qui lisent déjà, parce qu'il y en a tellement qui ne lisent pas l'Apocalypse en disant on ne comprend rien. Comment voulez-vous que Dieu leur révèle quelque chose si déjà à la base ils ne le lisent pas? Parce que c'est la révélation de Dieu qui donne l'autorité sur le diable. Vous comprendrez aussi que ce livre est tellement sérieux, c'est une révélation tellement sainte, que ceux qui oseraient y ajouter quelque chose ou y retrancher quelque chose, ils seront maudits. Vous trouvez ça dans Apocalypse 22, 18, 19. C'est le seul livre, on peut dire, dans la Bible où il est dit qu'il faut rien rajouter. Ça ne veut pas dire qu'on peut rajouter à Marc, Luc, Jean, Daniel, Osée. Non, il faut laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais l'Apocalypse en particulier, c'est très grave. C'est tellement important. C'est simple à comprendre. Si tu enlèves ou si tu rejettes quelque chose de ce que Dieu révèle, tu ne peux pas avoir la victoire sur l'ennemi. Puisque c'est grâce à la révélation de la vérité que tu peux avoir la victoire sur l'ennemi. Et donc, tu es maudit. Par voie de conséquence, tu es maudit. Tu es maudit, c'est-à-dire que tu t'éloignes de la bénédiction. C'est aussi simple que ça. Rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation de ce que Dieu dit. Alors, il faut que tu gardes cette révélation et tu seras béni. Apocalypse 1, 3. Parce que, c'est écrit dans Apocalypse 1, 3, parce que le temps est proche. Alors, quel temps? Quand Jésus a donné cette révélation à Jean, quand il lui a dicté ce livre, le temps n'était pas proche. Le temps de donner cette révélation c'était lointain. Ce livre de l'Apocalypse est un livre avec plein de paroles scellées, cachées, paraboliques, métaphoriques, et les gens ont interprété comme ils ont voulu, mais il fallait que la révélation soit donnée par Jésus-Christ lui-même, et ce temps n'était pas proche à l'époque. La révélation de chaque âge ne peut venir que dans l'âge en question à un moment précis. Par exemple, vous regardez Israël, la révélation de Dieu à Moïse n'est venue qu'à un moment précis. Et comme je vous ai dit l'autre jour, ce que Dieu a révélé à Moïse, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, avec le livre de l'Apocalypse, on a vraiment toute la révélation qu'il nous faut pour pouvoir partir dans l'enlèvement. Jésus, qui était la révélation du Père dans la chair, l'image de Dieu, n'est venu que lorsque ça a été le temps. Et dans notre temps, la révélation viendra au temps fixé et elle ne faillira pas. Et nous sommes aujourd'hui à la fin des temps. À la fin des temps de quoi? À la fin du temps de l'Église dans les nations. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du temps de la véritable Église dans les nations. La véritable Église est appelée l'épouse. Elle va être enlevée. Ensuite, l'Antichrist paraîtra. Il fera des prodiges, des miracles. Il arrangera beaucoup de choses. Il supprimera la faim dans le monde, la maladie. Il fera des choses tellement extraordinaires que les gens penseront que c'est le Messie. Et puis ensuite, Jésus viendra, et tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, parce qu'il viendra du ciel, d'une façon miraculeuse. L'Antichrist ne viendra pas du ciel. Donc ces choses-là, on va les étudier petit à petit. Pour ce soir, je m'arrêtais là. Vendredi prochain, on continuera, on ouvrira le premier sceau, et on regardera ce qui est écrit au sujet du premier âge de l'Église, qui est écrit là, sous ce sceau et dans cette lettre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde de bien saisir ces choses, de bien les comprendre. Prenez des notes, ne laissez pas ces choses s'envoler dans votre oubli. Mais gardez-les bien précieusement, c'est important. Le jour viendra où vous réécouterez ça et où vous direz « Quel dommage que je n'ai pas écouté avec plus d'attention ». Alors faites-le maintenant, écoutez avec attention, que Dieu vous bénisse. Au revoir, à bientôt, merci.